Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais méditer quelques instants sur une réalité qui constitue notre lot quotidien, au point que on puisse la qualifier de compagne de l'être humain. Je veux parler bien sûr de la tentation. Compagne redoutée, compagne haïe bien sûr, mais compagne quand même. Et puisque, pour ainsi dire, nous partageons notre vie avec elle, puisqu'elle ne cesse, cette maîtresse effrontée, de nous tirer par le pan de notre habit en permanence, comme saint Augustin le décrivait très bien dans les Confessions. Il expliquait que toutes ces vieilles lubies, toutes ces vieilles étaient comme des maîtresses qui venaient le tirer de droite et de gauche en lui demandant si vraiment il était décidé à les lâcher ou pas, et s'il se rendait compte que la conversion au christianisme, c'était une conversion pour toujours. Et saint Augustin, voilà, décrit cela de manière extrêmement haute en couleur, et montrant par là en fait ce que nous vivons nous-mêmes avec des mots que nous n'aurions pu écrire. Il fallait être saint Augustin pour le rendre si bien. Je ne suis pas saint Augustin, mais j'y reviens quand même à ces maîtresses qui nous tirent par la manche. Il s'agit de s'arrêter une minute pour bien regarder en face cette fille ou ces filles, ces maîtresses-là qui viennent nous happer toute la journée, et les considérer avec lucidité pour savoir ce qu'elles sont vraiment, et songer aux moyens de résister, bien sûr, à ses avances, si elle est seule, ou à leurs avances, si elles sont plusieurs. À cet égard, le récit des tentations de Jésus au désert, que nous venons d'entendre, est un véritable morceau d'anthologie, comme vous le savez. Alors, regardons-y de plus près, pour voir un petit peu comment ce qui apparaît de ces maîtresses, que sont les tentations, et qui ne nous quitteront pas jusqu'à la fin de nos jours, il ne faut pas rêver, mais que nous devons avoir à cœur de combattre. L'évangile s'ouvre sur une phrase extrêmement étonnante. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté, pour être mis à l'épreuve. Je pense qu'on vous en a déjà parlé, mais bis repetita placet, il faut parler de cette phrase étonnante, parce qu'on a l'impression cette phrase malheureuse de la traduction du Pater, vous le savez, ne nous soumet pas à la tentation, on a l'impression que c'est ce qui gît dans ce texte-là. Pour y être tenté. L'Esprit Saint conduit Jésus pour y être tenté. Alors certains ont voulu gommer cette expression « pour y être tenté », considérant qu'il était trop choquant, dans un souci très noble d'exempter Dieu de toute responsabilité à l'égard de la tentation, eh bien, de maintenir cette phrase. Alors ils lui ont préféré cette traduction « il y fut tenté », c'est-à-dire l'Esprit Saint conduit Jésus au désert et il y fut tenté par le diable. Vous voyez, on gomme en réalité ce que la phrase a de choquant dans le texte primitif. Et laissez-moi vous dire que ce tour de passe-passe ne me plaît pas du tout. En tout cas, ne me convainc pas. C'est-à-dire, vouloir innocenter Dieu à tout prix des tentations que nous endurons, des maîtresses dont je viens de vous parler, que nous avons à nos côtés, sans le vouloir, c'est en venir petit à petit à faire de Dieu un impuissant. Ou un gentil bonnet. Le dindon de la farce, si ce mot ne convient pas trop à Dieu, mais si on le considère tel que je viens de vous le dire, comme quelqu'un qui constaterait, sans trop le vouloir, sans trop que nous sommes dans la tentation, sans trop le savoir, puis de temps en temps, parce que des suppliques montraient vers lui, il se rendrait compte que... Non, je ne crois pas du tout en ce Dieu-là. Je pense, au contraire, que Dieu connaît notre tentation, et plus encore, j'allais plus loin, qu'il permet notre tentation, et d'une certaine manière, qu'il la veut. Je m'explique, parce qu'il faut bien se comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu nous pousse au mal. Ça, c'est l'apanage d'un être qui nous déteste depuis que nous existons, depuis que le bon Dieu nous a tirés du néant. Il s'appelle Satan. Jésus l'appelle l'homicide depuis le commencement. Lui, il nous pousse au mal, c'est-à-dire il nous détourne de Dieu, et ainsi, coupé de la vie qui vient de Dieu, nous mourons. Homicide, c'est ce que veut Satan. Évidemment, Dieu qui a pris la peine, si j'ose dire, de nous tirer du néant, pour nous maintenir dans l'existence, ne saurait nous pousser au mal qui nous conduit à la mort. C'est clair. Mais je dis que Dieu n'est pas innocent dans le fait que nous soyons tentés. Regardons un autre récit que ce récit des tentations de Jésus. Évidemment, la tentation par excellence, ailleurs que dans ce récit, c'est la tentation de Genèse, chapitre 3e. Que voyons-nous dans le livre de la Genèse et dans les trois premiers chapitres en réalité, pas seulement le chapitre 3 qui concerne la tentation? Dieu plante dans le jardin d'Éden un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je dis bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il donne cette interdiction, il indique à son cher enfant, à ses chers enfants, qu'en aucun cas il ne pourrait manger de ce fruit, sinon il mourrait, mais cet arbre, il l'a planté. C'est-à-dire que là gît une tentation pour l'être humain et il le sait. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons tentés? Pourquoi permet-il? Je ne sais pas quel terme l'employer parce que nos mots sont impuissants à le décrire. Mais en aucun cas, nous ne pouvons totalement innocenter Dieu, je le redis. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons tentés ou permet-il que nous soyons tentés? Mais parce que dans cette tentation, nous avons la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Nous avons la possibilité de dire oui à Dieu ou de lui dire non. Prenons une comparaison très simple et quotidienne. Lorsque nous parlons de Dieu, nous l'appelons notre Père. Croyez-vous qu'un père qui aime son enfant, qui a de l'estime pour lui, veuille maintenir son enfant dans une infantilité perpétuelle, en l'empêchant à tout prix de s'approcher du feu, de s'approcher de l'eau, de monter à l'étage par peur qu'il tombe par terre? Un vrai père est quelqu'un qui petit à petit veut vertébrer son enfant et qui, partant, lui permet de faire des expériences, de choisir tout en lui disant ce qu'il convient de faire. Je ne suis pas en train de dire que Dieu prend plaisir à nous faire tomber ou à nous laisser tomber. Je dis que Dieu nous laisse faire le choix très concret, plusieurs fois par jour, du bien ou du mal. Et en cela, Dieu permet la tentation et Dieu se sert de la tentation en quelque sorte pour éprouver notre amour, pour que nous puissions nous vertébrer petit à petit et que nous puissions lui montrer que nous l'aimons. Vous voyez en quel sens je pense qu'il est inconvenant de dire que vraiment Dieu n'a aucune responsabilité et de rayer cette phrase originelle du texte, il y fut conduit par l'Esprit Saint pour y être tenté, afin d'y être tenté, en il y fut conduit par l'Esprit Saint et il y fut tenté. Ben voyons. Vous voyez que Dieu, je crois vraiment, a une responsabilité quant à la tentation. Non pas quant au mal, je le dis encore, quant à la tentation. C'est-à-dire quant à cette occasion de résister au mal. Et nous ne pouvons résister à cette tentation qu'avec la grâce de Dieu, bien sûr. Je voulais encore vous parler d'autre chose. Je viens de vous montrer en quoi ce texte nous éclaire sur la tentation quand on le met en parallèle avec le livre de la Genèse. Je voudrais également vous montrer ce qui, dans la tentation, nous attire. Parce que là encore, ce texte est très éclairant, comme celui de la Genèse. Ce qui nous attire dans la tentation, ce n'est évidemment pas un mal en tant que tel. Ce qui attire notre Seigneur dans ce texte de l'Évangile, ce sont trois choses tout à fait légitimes. Transformer des pierres en pain, qui ne le veut, pour pouvoir nourrir la planète entière. Si nous avions ce pouvoir, nous le ferions. Dominer sur le monde, enfin avoir tous les royaumes en héritage, qui mieux que Jésus peut le faire et qui plus que lui a la légitimité de régner sur les royaumes? Se jeter dans le vide pour éprouver Dieu, alors évidemment pour éprouver Dieu c'est là que le bât blesse, mais se jeter dans le vide attendant que les anges de Dieu le sauvent, n'est-ce pas un peu ce que Jésus fait lorsqu'il se livre en croix? Il attend de son Père la rétribution qu'est la résurrection, avec une confiance absolue. Vous voyez que ce qui est donc proposé par le diable à Jésus est quelque chose de légitime. La fin proposée est légitime. Les moyens sont déréglés. Exactement comme dans le livre de la Genèse, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, les deux choses que Satan propose à Adam et à Ève, ce sont des choses légitimes. Devenir comme Dieu. Nous lisons dans le Nouveau Testament, vous avez revêtu le Christ, vous qui avez été baptisés dans le Christ. Oui, nous sommes rendus fils adoptifs de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Effectivement, nous devenons des dieux d'une certaine manière. Nous sommes déifiés. Nous ne devenons pas l'un des trois, bien sûr, l'un des quatre du coup, mais nous sommes déifiés. Quant à connaître le bien et le mal, j'espère bien que c'est ce à quoi chacun d'entre nous aspire, petit à petit, entrer dans une connaissance de la loi de Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais là encore, là où le bât blesse, c'est quant aux moyens pour obtenir la fin proposée. La fin est bonne, donc dans chaque tentation, nous avons effectivement un attrait pour un bien. Mais pour un bien qui ne convient pas au moment donné, vu les circonstances et vu qui nous sommes. Je trouve une femme jolie, je suis prêtre, cette femme en plus par surcroît est mariée, je ne peux pas me marier avec cette femme. En soi, se marier est un bien, il est légitime d'être attiré par quelqu'un, mais les circonstances sont mauvaises, l'état de l'un et de l'autre ne le permet pas. Vous voyez, c'est très clair. Mais ce sur quoi je voudrais un peu vous éclairer ce matin, parce que ça vous le saviez, que dans chaque tentation, nous sommes tentés par, on dit, sous specie boni, c'est-à-dire sous apparence de bien. Nous avons quelque chose qui est déréglé, mais qui nous apparaît comme un bien, alors que en soi c'est un bien, oui, mais pas pour nous à l'heure actuelle. Je crois qu'il y a pire dans ce qui fait l'objet de notre tentation. Nous sommes également attirés par non seulement un bien déréglé, mais nous sommes attirés, je crois, également par le néant. C'est un sujet qui passionne la bête noire, et j'avoue qu'il m'a communiqué cette passion. Malheureusement, je n'en rendrai pas compte de la même manière que lui, j'en ai pas les moyens, mais je voudrais simplement vous dire deux mots là-dessus. L'être humain est, lorsqu'il est attiré dans la tentation vers quelque chose, il n'est pas seulement attiré vers ce bien particulier auquel il tend par des moyens désordonnés ou dans des circonstances qui ne conviennent pas. Je crois vraiment que dans chaque fait où nous cédons à la tentation, nous jouons à la roulette russe. Il y a dans la tentation, lorsque nous y cédons, quelque chose d'enivrant, quelque chose de terrible du reste, qui est comme un attrait du vide chez celui qui marche sur une poutre. Avez-vous fait cette expérience? Pour ma part, oui, l'attrait du vide, c'est très étonnant. On n'a qu'une peur, c'est de tomber, et en même temps, on se sent comme attiré dans le vide. Je crois que l'être humain a cet attrait, évidemment, d'une manière plus ou moins accrue, selon le degré de la tentation. Je ne dis pas que lorsqu'on va manger une barre de chocolat alors que c'est le carême, je dis ça pour les servants de messe, bien sûr, parce que vous, ça ne vous concerne pas, moi non plus, nous n'en sommes pas là. Eh bien, lorsque nous sommes attirés par une barre de chocolat, il est évident que ce n'est pas l'attrait du néant qui nous fascine et qui nous enjôle, non. Mais pour des tentations plus puissantes, je crois vraiment que l'être humain est attiré par le néant. Et là, ce n'est pas la position de la bête noire, c'est la mienne. Je crois que ce qui permet cela, c'est que l'être humain est tiré du néant. L'être humain est venu à l'existence parce que Dieu, par sa parole créatrice, a tiré cet être du néant. Et il y a, je crois, dans la tentation, comme une volonté d'échapper totalement à la tutelle paternelle de Dieu et à la tutelle créatrice de Dieu. Non serviam, c'est bien la devise du diable, et dans les tentations importantes, je crois que ça devient la nôtre si nous y cédons. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de l'ordre qu'il a établi, alors où est-ce que je dois revenir? À l'étape antérieure à la création. Cette espèce de fascination pour l'état primordial d'où nous sommes sortis. J'avoue que c'est un peu biscornu et que cette thèse, il faut encore la travailler. Je trouve ça captivant tout de même. Et je pense que là, on répond à une facette du mal lorsque nous cédons à la tentation. Nous ne sommes pas seulement tentés par un bien, mais nous sommes également, je crois, et parallèlement et paradoxalement, également attirés par le néant. Pas seulement par l'être, mais également par le néant. Et c'est ce qui se passe pour Adam et Ève. Aucune circonstance atténuante. Ils ont tout ce qu'ils veulent, et voilà qu'ils sont attirés par le néant. On ne peut pas l'appeler autrement. Ils sont attirés, le goût du risque les prend, la roulette russe, et voilà qu'ils se disent, ah, l'orgueil bien sûr, mais également, je crois, une fascination pour un ordre où Dieu ne serait pas leur père, ne serait pas leur souverain. Et je finis, parce que ce sermon vraiment prend des proportion trop importante pour un dimanche de carême. Je finis par un simple conseil sur la manière de faire face aux tentations, et comment lutter. Le contraste est frappant, évidemment, encore entre ce texte de Genèse 3 et le texte d'aujourd'hui de l'Évangile. On a ce qu'il ne faut pas faire chez Adam et Ève et ce qu'il faut faire avec le Seigneur Jésus. Adam et Ève, c'est ceux qui, en leur propre conseil, pensent qu'ils arriveront à faire face à cet être venimeux qui, petit à petit, s'enroule autour de leur cou et finit par avoir raison d'eux. Jésus, c'est celui qui, alors qu'il est à la fois Dieu et homme, dans son humanité, ne présume pas de ses forces. Jésus, dans son humanité, est faible et il le sait. Et Satan le sait. Sinon, il ne s'avancerait pas vers Jésus pour tenter de le faire tomber. Pensez-vous que Satan soit suffisamment sot pour essayer de faire tomber Dieu lui-même? Certainement pas. Il lui reste encore suffisamment de lumière pour savoir que ça n'est pas possible. En revanche, ce qu'il veut faire tomber en Jésus, c'est l'humanité. C'est le Fils de Dieu, mais devenu homme. Et Jésus, lui, sachant sa faiblesse, se cache, se met une carapace, celle de la parole même de Dieu. Ève parle à tue-tête avec une sorte d'insouciance et d'idiotie en même temps. Quant à son pauvre mari, il est tout aussi bonnet qu'elle, il ne parle pas, mais je pense qu'il n'en Il n'en imagine pas moins toutes sortes de châteaux en Espagne. D'ailleurs, il cède comme elle. Quant à Jésus, il se réfugie derrière la parole de Dieu. À chaque attaque du démon, c'est la parole de l'Écriture que Jésus cite. Et c'est, je crois, la clé de notre résistance à la tentation, au-delà de cet attrait étrange vers le néant, en même temps que vers un bien, mais qui est désordonné, au-delà de cette fascination que nous avons, le seul moyen de couper court à ce dialogue mauvais, à ce dialogue qui nous attire dans une spirale infernale, c'est de se réfugier dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est présente dans les saintes lettres, dans l'Écriture, en même temps que sur l'autel, dans l'Eucharistie. C'est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu fait chair et fait ensuite, si j'ose dire, pain. Pain eucharistique, bien sûr. Vous voyez que pour pouvoir descendre dans l'arène et mener le combat dont saint Paul parle dans son épître magnifique, et vraiment l'Église nous gratifie de lectures magnifiques des épîtres de saint Paul, et je vous conjure de les lire. Celles que nous avons depuis 3 ou 4 dimanches sont absolument splendides. Eh bien, si nous voulons pouvoir combattre à l'instar de saint Paul, réfugions-nous dans la parole de Dieu. Faisons de cette parole de Dieu une occasion d'écraser la tête de cette tentation qui, je vous le redis pour conclure, je vous redis ce que j'ai dit au début, est-elle une vieille maîtresse qui, lorsqu'on la regarde de près, est finalement bien usée, bien ridée, pas très appétissante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.